VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Les 26 candidats pour la présidentielle tunisienne concluent aujourd'hui une campagne fiévreuse et mouvementée avant un premier tour dimanche à l'issue totalement incertaine. Ce dernier jour de campagne devrait également être marqué par une décision de la Cour de cassation qui doit se prononcer sur un recours contre l'arrestation de Nabil Karoui, l'un des favori du scrutin, incarcéré depuis le 23 août pour blanchiment d'argent. L'homme d'affaires qui accuse le pouvoir d'avoir instrumentalisé la justice pour l'écarter de la course a assuré jeudi dans un communiqué qu'il ne se retirerait pas et a affirmé avoir entamé une grève de la faim. Crise au Cameroun, la France souhaite que le dialogue national proposé par le président Paul Biya permette une large concertation respectant les différentes sensibilités politique. Ce dialogue vise à mettre fin au conflit meurtrier dans les deux régions anglophones qui agitent le Cameroun depuis près de 3 ans. Eric Manirakiza.
La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a salué l'annonce du président Paul Biya, souhaitant que ce dialogue ouvre la voie à une résolution politique de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Tout en réitérant sa condamnation du recours à toute forme de violence, Paris souligne son attachement au dialogue et à la libre expression des différentes sensibilités politiques à travers une large concertation entre Camerounais. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, encourage toutes les parties prenantes camerounaises, y compris la diaspora, à s'impliquer de manière constructive dans ce dialogue. L'annonce de Paul Biya est intervenue 3 semaines après la condamnation à la prison à vie d'un des principaux chefs séparatistes, Julius Ayuk Tabe, qui a qualifié hier de non-événement le dialogue voulu par Yaoundé. Il estime que c'est une tentative maladroite d'éviter des sanctions de l'ONU. Pour lui, le président Biya n'a pas défini les modalités juridiques qui permettraient le retour au Cameroun des réfugiés ou demandeurs d'asile qui ont fui le pays en raison des persécutions du régime de Yaoundé.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé jeudi à l'unanimité un premier allègement de l'embargo sur les armes décrété en 2013 pour la Centrafrique, une demande de longue date de ce pays pour mieux combattre les groupes armés. Cette résolution permettra à la République centrafricaine de s'occuper de sa propre sécurité, a estimé devant des médias l'ambassadeur de France auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière. Pour la Centrafrique et la Russie, très présente dans ce pays depuis quelques années, il est possible d'aller beaucoup plus loin dans la levée de l'embargo. Les proches de Robert Mugabe ont finalement accepté que l'ex-président du Zimbabwe soit enterré au Champ des Héros, un monument national de la capitale Harare, ainsi que le souhaitait le gouvernement, a annoncé aujourd'hui un porte-parole de la famille. « Oui, je confirme », a déclaré devant la presse un des neveux du président, Léo Mugabe, après plusieurs jours de tension entre les autorités et la famille qui préférait qu'il repose dans son village. Le porte-parole de la famille n'a pas précisé à quelle date l'enterrement aurait lieu. Je rappelle que Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il venait se faire soigner depuis des années. Après le Malawi et le Ghana en avril, le Kenya va lancer aujourd'hui une campagne de vaccination contre le paludisme, test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé contre cette maladie qui tue chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes en Afrique, principalement des enfants. Aboutissement de plus de 30 ans de travaux, la campagne lancée dans ces 3 pays vise à confirmer l'efficacité du vaccin sur des enfants âgés de moins de 2 ans, les plus vulnérables à la malaria. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui coordonne ces programmes, espère vacciner 120 000 enfants dans chacun de ces pays d'ici à 2020. Le lancement de la campagne de vaccination kényane doit avoir lieu aujourd'hui dans un centre de santé du comté de Homa Bay, dans la région du lac Victoria, une des plus touchées au monde par le paludisme.
Nos infos sur voaafrique.com.
Troisième débat télévisé de la primaire démocrate en vue de la présidentielle de 2020, Joe Biden, vice-président de Barack Obama pendant 8 ans, a souligné hier sa volonté de se servir des fondations du système dit Obamacare et a accusé les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders de vouloir le détruire en instaurant un système de santé pour tous qui mettrait fin à l'assurance privée. Biden et Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, désormais en deuxième position derrière Biden dans les intentions de vote, qui se retrouvaient pour la première fois sur la même scène, ont évité la confrontation. Mais Julian Castro, qui se trouve à la traîne dans les sondages, a reproché à M. Biden de rappeler son passé aux côtés d'Obama ou de s'en distancer à sa guise en fonction des circonstances. Le déficit budgétaire des États-Unis a atteint 200 milliards de dollars en août pour dépasser 1000 milliards de dollars depuis le début de l'année, a annoncé jeudi le département du Trésor. Les analystes interrogés par Reuters attendaient pour le mois d'août un déficit à 195 milliards de dollars. De janvier à août, le déficit se chiffre à 1067 milliards de dollars contre 898 milliards sur la même période l'année dernière. Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que l'Iran souhaitait une rencontre avec les États-Unis, alimentant encore les spéculations sur un possible tête-à-tête avec son homologue iranien Hassan Rouhani en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Interrogé mercredi sur un éventuel allègement des sanctions visant l'Iran, condition sine qua non posée par Téhéran pour envisager une rencontre au sommet, le locataire de la Maison-Blanche avait laissé planer le doute. Élections israéliennes, les citoyens arabes représentent 20% de la population et pourraient avoir un rôle à jouer dans la future coalition gouvernementale. Ils n'ont jamais rejoint un gouvernement israélien, mais certains estiment que c'est peut-être le temps du changement. Mise en perspective, Linda Grastein, récit Lionel Gaïma.
Lors des dernières élections israéliennes, il y a à peine 5 mois, près de la moitié de citoyens arabes ont voté. Leur représentation à la Knesset, le Parlement israélien, est passée de 13 membres en 2015 à 9 actuellement. Mais certains partis arabes espèrent remporter plus de sièges avec une liste commune lors des élections de la semaine prochaine. Ahmed Tibi, membre de la Knesset, est numéro 2 sur cette liste commune.
Notre message à notre communauté en tant que liste commune est « Allez voter ». Allez voter pour avoir de l'influence. C'est votre droit, surtout le jour des élections, pour changer notre réalité.
Youssef Yabarin, autre membre de la Knesset, estime que le vote arabe est crucial pour empêcher Benjamin Netanyahou de former un gouvernement d'extrême droite et d'adopter de nouvelles lois qui, à son avis, seront discriminatoires à l'égard des citoyens arabes d'Israël.
Continuer la législation raciste et discriminatoire que ce gouvernement a menée ces dernières années et va continuer de faire s'il en a le pouvoir. Tout siège supplémentaire va affecter la composition de la Knesset et pourrait empêcher Netanyahou de mettre en place un gouvernement d'extrême droite.
Benjamin Netanyahou a nié à plusieurs reprises les accusations de discrimination contre les Arabes. Il cite pour exemple le nombre croissant des citoyens arabes dans les universités israéliennes et leur représentation à la Knesset. Les partis arabes n'ont jamais fait partie d'une coalition gouvernementale en Israël. Mais le responsable de la liste commune, Ayman Odeh, a récemment suscité la controverse en disant que, sous certaines conditions, cela pourrait changer. Le chef de l'opposition Benny Gantz, président du parti de centre-gauche Kahol Lavan, a déclaré qu'il n'était pas intéressé. Mais certains citoyens arabes d'Israël, comme l'analyste Tabet Abouras, co-directeur de l'initiative pour le fonds Abraham, sont d'accord avec cette idée.
Je pense que cette déclaration est importante pour motiver et motive déjà les électeurs arabes. Cela ouvre l'esprit de certains dirigeants juifs qui pourront dire « Nous avons un partenaire dans la communauté arabe et nous verrons de plus en plus de coopération politique entre juifs et arabes dans le futur. »
La plupart des Arabes d'Israël affirment que leurs principaux problèmes sont l'augmentation de la criminalité dans leur lieu de résidence et les politiques qu'ils jugent discriminatoires. La majorité des Arabes d'Israël soutiennent la création d'un État palestinien et craignent qu'une victoire de Netanyahou détruise à jamais la possibilité de créer un tel État. Mais si la liste commune remporte suffisamment de sièges, elle pourra jouer un rôle plus important dans le prochain gouvernement israélien, et ce qui serait une première depuis la création d'Israël.
Le pape François se rendra en voyage apostolique en Thaïlande puis au Japon du 19 au 26 novembre, a annoncé aujourd'hui le Saint-Siège dans un communiqué. Le pape sera reçu en Thaïlande du 20 au 23 novembre puis au Japon du 23 au 26 novembre. Il se rendra à Tokyo, Hiroshima et Nagasaki, a précisé le Vatican. Jean-Roger Bion à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Harry Francis. Bon après-midi et bon week-end à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.